de l'Église le jour du 15 octobre. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et ravive en nous le désir de la véritable sainteté par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection. Voilà donc le sujet de notre session, le livre que nous allons aborder, étudier. Et vous avez donc le plan de la session. Je pense qu'il manque un exemplaire. C'est à vérifier, on verra à la pause. Sur 4 pages, vous avez donc les 6 points que nous allons aborder. Et vous avez une bibliographie essentielle, à la fois en français et en espagnol. Donc les 2 langues où il y a le plus d'études et d'études récentes. Et aussi d'études que nous possédions à la bibliothèque, il faut bien reconnaître. Il y a d'autres études en allemand que nous ne possédons pas dans notre bibliothèque, de même en anglais. Alors, pour une bibliographie absolument systématique, je vous renvoie à cet ouvrage qui a été publié il y a 3 ans, Santa Teresa de Jesús, une bibliographie systématique. Et donc c'est une bibliographie systématique dans toutes les langues qui a été publiée en vue de la préparation du 5e centenaire de la naissance de Thérèse en 2015. Voilà, c'est un excellent travail, c'est absolument parfaitement fait. Donc vous pourrez le consulter lorsque je l'aurai remis. Ça veut dire que tout ce qu'il y a en anglais, tout ce qu'il y a en allemand est aussi consigné dans tout ce qu'il y a en italien. Voilà. Chinois, j'ai pas vu de caractère chinois. Donc voilà. Mais ça, c'est la référence, si vous voulez, la plus fiable. Et je m'adresse en particulier aux étudiants de licence canonique. Si vous travaillez Sainte Thérèse, il faut vous référer à cette bibliographie, c'est clair. C'est le dernier cri. Ça a déjà 3 ans. Donc, voilà. Encore des travaux qui sont faits en préparation du 5e centenaire. Bien. Nous disposons donc de 10 heures de travail. Aujourd'hui, nous allons avoir une première approche de l'ouvrage écrit par Sainte Thérèse d'Avila, Le chemin de la perfection. Et puis, nous travaillerons le point 2, l'idéal thérésien, lecture commentée des chapitres 1 à 4. Pour ce faire, donc, je vous demandait d'arriver avec le texte du chemin de la perfection, quelle que soit la traduction et quelle que soit la langue, ça n'a pas d'importance, hein. Mais je ne vais pas faire de photocopie du texte ou d'une quelconque traduction, hein. C'est beaucoup trop fastidieux et puis on s'y retrouve jamais. Alors, évidemment, si vous pouvez lire l'original espagnol, c'est fantastique, c'est le mieux, c'est vrai, c'est clair, hein. C'est le mieux. Et ensuite, alors en traduction française, nous disposons de 3 traductions. Alors, traduction qui est aux éditions du Seuil, un autre tome, et qui est l'édition de référence pour l'édition de Je veux voir Dieu jusqu'à maintenant. Et cette édition, qui est une assez bonne traduction, surtout sur le plan du vocabulaire théologique, présente le grand inconvénient maintenant pour les études thérésiennes, qu'il n'y a pas la division en paragraphes. Tous les textes de Sainte Thérèse d'Avila maintenant sont présentés dans toutes les langues avec la division en paragraphes. selon l'édition originale espagnole maintenant. Et toutes les études sont faites en donnant les références par chapitre et paragraphe. Voilà. Alors, c'est devenu cette édition qui n'est plus publiée maintenant, hein, qui ne sera sans doute plus hein, du seuil, présente cet inconvénient. Bon. Alors, vous avez ensuite une autre traduction publiée par les éditions du CERF en deux volumes pour les œuvres complètes de Sainte Thérèse d'Avila, un volume avec les grands textes et puis l'autre volume avec les lettres, hein, avec des introductions traduites de l'espagnol faites par l'un des meilleurs spécialistes jusqu'à maintenant, le père Thomas Alvarez hein, de Burgos. Donc c'est une bonne édition. La traduction est plus ancienne que celle-ci. Elle est due au Carmélite de Paris, à Sœur Marie du Saint-Sacrement. Elle a été quelque peu revue, mais bon, voilà, elle a ses limites aussi. Et puis le dernier volume que je viens de passer à Stanislas, donc c'est la traduction aux éditions Desclés de Brouwer qui vient d'être ressortie l'an dernier, ce qui montre que dans le commerce, ça marche bien. Ah ben voilà. C'est tout à fait ça, ah ben oui, c'est ça, qui est ressorti. Donc c'est la fameuse traduction de Marcel Auclair, hein, qui est bien connue, qui une femme qui était née au Chili, qui parlait bien l'espagnol, qui a vécu en Espagne. Elle suit la numérotation des paragraphes, donc c'est très commode, comme celle-ci d'ailleurs. Hein, et c'est une plume très, très féminine, très enjouée, très agréable, mais elle présente un certain nombre de limites sur le plan de la rigueur du vocabulaire théologique. Quelques erreurs, il faut bien reconnaître, qui ont été relevées déjà depuis un certain nombre d'années par des pères carmes, mais que j'ai pu vérifier. Hein, donc, au point de vue des traductions françaises, on a trois traductions qui sont intéressantes, qui sont bonnes, mais qui ont chacune leurs limites. Donc, il n'y en a pas de parfait. Hein. Voilà, vous faites comme vous voulez. Alors après, en anglais, je n'ai pas idée. Et en italien non plus. Et en allemand, je n'ai pas idée non plus. Voilà. Alors, il y a un autre point, parce que je vois que Cécile, étudiante modèle, et Monette, étudiante modèle, donc ainsi que vous, père. Ah ben, dites donc, oui. Alors, vous êtes allé, vous êtes tombé du... Bien. Alors, vous allez pouvoir suivre probablement un ou deux textes, pas plus. Alors, on va entrer un petit peu dans ce détail-là, mais vous avez ce qu'on appelle le chemin de perfection autographe de l'Escorial, noté CE, chemin de perfection Escorial. Et les autres éditions, très habituellement, ont le chemin de perfection Valladolid. Il y a deux autographes, on va y revenir, je vais vous montrer tout ça, parce que nous faisons une étude scientifique. Hein. Donc, il y a donc deux autographes, c'est-à-dire deux textes écrits de la main de Sainte Thérèse, et vérifiables que c'est de la main de Sainte Thérèse, du chemin de la perfection. Un texte qui s'appelle « Chemin de perfection, manuscrit ou autographe de l'Escorial » et l'autre « Manuscrit ou autographe de Valladolid », selon les lieux où ils sont conservés. Voilà. On va voir un petit peu le détail de cette histoire dans le cours d'aujourd'hui. Oui ? Donc vous allez être un tout petit peu ennuyé pour suivre les textes. D'accord ? Parce que vous verrez, ce n'est pas du tout la même numérotation des chapitres, ni des paragraphes, et qu'ensuite, ce premier texte, le chemin de perfection de l'Escorial, a été retravaillé par Sainte Thérèse elle-même pour donner la deuxième version. D'accord ? Bon. Je vous aiderai, je vous passerai ça. Voilà. Il n'y a pas d'autres textes problématiques, non ? Ça va ? Bon, ça va. Alors, nous entrons dans cette première approche. Je vous ai mis sur le plan quelques clés de cette première approche. Je voudrais aussi vous faire comprendre que je ne vais pas donner une biographie de Sainte Thérèse d'Avila. Ça va ? Si vous voulez lire une biographie de Sainte Thérèse d'Avila, lisez d'abord la vie qu'elle a écrite elle-même. Ça va ? La vie ou l'autobiographie. Hein ? Bon. c'est assez volumineux, mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant, bien sûr. Vous avez aussi, je vous l'ai mis dans la bibliographie, un texte tout à fait intéressant en français. C'est le premier de la bibliographie du père Jean Abivin, carme de la province d'Avignon-Aquitaine. Thérèse Davila, qui es-tu? Édition du Carmel, 1999. Vous avez une très bonne biographie et une très bonne présentation des œuvres de Sainte Thérèse d'Avila. C'est très bon. Voilà. Alors, si toutefois vous n'aviez aucune idée, vous étiez vraiment gêné, je dispose d'une petite chronologie pour ceux qui le veulent, en français, de Sainte Thérèse d'Avila, de la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Ça va? Mais nous partons sur la base que, voilà, vous connaissez ou vous allez connaître. Voilà. Notre étude se concentre sur le chemin de la perfection. Bien. Le chemin de la perfection est l'une des œuvres les plus diffusées de Sainte Thérèse, les plus appréciées. C'est le premier texte qui a été publié. Et la préparation en a été faite par Sainte Thérèse elle-même. Il est sorti juste après sa mort, en 1583. Elle est morte en 1582, le 15 octobre. Ce texte a été considéré, ce texte du chemin de la perfection, a été considéré comme le manuel de vie spirituelle de tout le Carmel thérésien. Manuel d'oraison, livre de formation spirituelle, c'est ainsi qu'on l'a qualifié. Et, chose très intéressante, Sainte Thérèse l'appelle El Librillo, le petit livre. Par rapport au grande, le grand livre qui est le livre de la vie. Alors, il est en relation tout à fait directe avec ce livre de la vie. Le livre de la vie qui est une sorte de confession de Thérèse, une relation des grâces de Dieu. L'histoire spirituelle de Thérèse, et comme elle le dit elle-même, ses nombreux péchés, son péché d'ingratitude notamment. Et ce livre de la vie constituait une sorte de confession écrite, de relation écrite, adressée au cercle très intime de ses confesseurs, censeurs, amis, disciples, quelques personnes. Donc c'était ce livre assez volumineux, le premier qu'elle ait écrit, 1562, puis une deuxième version en 1565, a donc été remis à ses confesseurs, qui sont aussi censeurs de son œuvre, correcteurs, théologiens, et qui sont aussi en même temps ses amis et ses disciples. Vous voyez, c'est très mélangé tout ça, Et quand on pense censeur, on pense que c'est très négatif et que c'est l'Inquisition, mais c'est aussi qu'ils se sont faits, ils se sont mis à son école, vous voyez. Donc, c'est cela. Alors, ce premier grand texte qui transcrit son expérience spirituelle, c'est la transcription de son expérience, donc a été réservé à quelques intimes, et en particulier l'un des pères dominicains qui l'a reçu. Le père Bagnès, le grand théologien du XVIe siècle, Domingo Bagnès, OP, ordre des prêcheurs, professeur de théologie, de la grâce notamment à Valladolid et à Salamanque ensuite, assez connu dans l'histoire de la théologie de la grâce comme commentateur de Saint Thomas. Eh bien, le père Domingo Bagnès, confesseur de la Sainte à l'époque, eh bien, a décidé que ce livre devait rester dans le cercle des intimes. Ça ne devait pas passer dans toutes les mains. C'était trop personnel, trop intime. Hein. Voilà. Si bien que ce livre que Sainte Thérèse appelle le grand livre, ou qu'elle appelle dans une lettre « Mon âme », hein, ou qu'elle appelle encore « Le livre des miséricordes de Dieu hein, », car c'est ça qu'elle chante avec le psaume 88, hein, ce livre est donc retenu. Il n'est pas à la disposition. Et lorsque Sainte Thérèse, nous allons le voir en photo par la suite, lorsque Sainte Thérèse vient de fonder le monastère de Saint-Joseph d'Avila, qui commence la réforme du Carmel, en 1562, eh bien, les sœurs qui l'entourent lui demandent d'avoir accès à ce livre de la vie où il y a tant de choses intéressantes. En particulier, dans le livre de la vie, il y a 11 chapitres qui parlent de 4 manières d'arroser le jardin de l'âme, et qui sont quatre étapes d'une progression dans la vie d'oraison. Donc les sœurs seraient tout à fait friandes, intéressées pour lire ce texte, mais il est retenu. Et donc, aussi bien les sœurs carmélites, au milieu desquelles elle vit, dont elle est la prieure, elles sont 13 en tout, pour représenter le collège du Christ, hein, les apôtres autour du Christ, hein, eh bien, les sœurs font pression, et le père Domingo Bagnès aussi fait pression de son côté pour qu'elle écrive quelque chose. Et qu'elle présente donc ce qu'elle a dit dans le livre de la vie comme quelque chose d'expérientiel, si vous voulez, enfin une expérience, une confession personnelle, qu'elle le présente maintenant de manière beaucoup plus didactique, pédagogique. Oui. Alors, le chemin de la perfection... ce projet, si vous voulez, hein, ce livre, est donc une version didactique, pédagogique, hein, de l'enseignement que l'on peut dégager du livre de la vie. Mais d'une certaine façon, il en est l'ersatz, le produit de remplacement, vous voyez, le substitut. Ça va ? Je vous ai mis version pédagogique et didactique de la vie retenue par l'Inquisition. Je suis allé un petit peu vite pour l'Inquisition. Ça a d'abord été retenu par le père Bagnès. Hein. Puis il l'a retenu pour le protégé de l'Inquisition. Il y a un autre manuscrit qui va arriver à l'Inquisition parce qu'il y a eu quelques dénonciations, mais c'est un petit peu postérieur hein, pour cela. Hein. Je suis allé vite en besogne, là j'ai résumé. Hein. Bien. Alors, les destinataires de l'œuvre, c'est toujours important de savoir à qui est destinée l'œuvre, car cela détermine le caractère de l'œuvre, hein, sont donc les sœurs, ces sœurs ou ces filles, hein, du monastère de Saint-Joseph d'Avila. Vous allez pouvoir prendre l'intitulé, le titre, et le voir, c'est très simple, quand vous prenez dans votre ouvrage... Hein, que vous avez au tout début. Donc je prends, c'est donc l'autographe de Valladolid. Hein. Ça commence par Jésus, c'est très important. Jésus, hominum salvator, sauveur des hommes. Les écrits de Thérèse commencent toujours ainsi. Ils sont dans la lumière de Jésus, pour la gloire de Jésus, hein, dans sa grâce, hein, et d'une certaine façon adressés à lui ou venant de lui. Ça va ? Bien. Et ensuite, vous avez... Qu'est-ce que vous avez en français ? Prenez au tout début, avant l'argument, voilà. Qu'est-ce que vous avez comme titre ? Le titre.
Livre appelé « Le chemin de la perfection ».
Allez-y, lisez ça.
Composé par Thérèse de Jésus, religieuse de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il est destiné aux religieuses déchaussées de Notre-Dame du Mont-Carmel de la Règle Primitive. Mm-hmm.
Bon. Alors, il y a des choses comme ça. Ouais. D'accord. Après, le chemin de la perfection. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans là? Qu'est-ce que vous avez ici, par exemple?
Ce livre renferme des avis et des conseils que voilà. Père de Jésus donne à ses filles.
Ouais. Ouais, vous avez ça juste après vous. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, vous voyez, c'est déjà, on commence déjà dans les salades. Hein. C'est assez compliqué. Hein. Alors, ça vous fait comprendre d'une part. Je vous montre le manuscrit, vous pourrez le regarder. Hein. Donc là, c'est une édition facsimilée, hein. Donc photographiée à partir de l'autographe. Donc vous voyez comment ça se présente. C'est tel qu'elle l'a laissé et tel qu'il est conservé au Carmel de Valladolid, en Espagne. Donc Jésus et ce livre traitent. Hein, ça commence comme ça. Donc c'est ça qu'il y a. Et il y avait, après, un tout petit peu plus loin, un autre... Alors là, c'est plus développé. Donc ça, on l'a mis sur la couverture. Hein. Donc c'est ici. Ici, c'est donc bien développé, ce que vous avez là dans l'édition du Cerf. Il y a une note d'ascenseur. Et puis derrière, il y a le titre de l'ouvrage, Chemin de la perfection, hein, d'une écriture qui n'est pas tout à fait d'elle, ce qui montre que le titre, Chemin de la perfection, n'est pas d'elle. Ça va ? Ça commence bien. Il n'est pas d'elle, mais elle l'a avalisé. D'accord ? Parce que c'est au dos de la première page. Elle l'a avalisé. Hein ? Après, il y a une rature. Vous verrez les ratures. C'est tout à fait intéressant de regarder dans l'original. Hein ? Bon. Donc, Chemin de la perfection n'est pas d'elle. Elle, elle avait mis comme titre, et c'est tout à fait typique de l'époque, hein, comme au Moyen-Âge, des titres qui font des kilomètres. Hein ? Donc, ce livre traite d'avis et de conseils que donne Thérèse de Jésus aux sœurs religieuses et ses filles des monastères qui, avec la faveur de notre Seigneur et de la glorieuse Vierge Mère de Dieu, Notre-Dame, elle a fondé de la règle première ou primitive de Notre-Dame du Carmel, elle l'adresse spécialement aux sœurs du monastère de Saint-Joseph d'Avila, qui a été le premier où elle était prieure quand elle l'a écrit. Je traduis littéralement, ça va? Vous vous y retrouvez? Bon. Alors, c'est une salade complète parce que, bon, d'une part, vous voyez que ce n'est pas le titre Chemin de la Perfection. Bon, maintenant, c'est réglé. Hein. Il était au dos, écrit par une sœur, ce livre appelé Chemin de la Perfection. Elle a avalisé, donc ça va. On peut le considérer comme d'elle-même. Alors, ce titre plus long nous dit, d'une part, de quoi il s'agit, des avis, des conseils. C'est une première chose. Je crois que ça, c'est assez intéressant. Donc c'est très simple, ce n'est pas un traité, des avis, des conseils. Les destinataires, ce sont les sœurs religieuses et filles des monastères. Alors, ça pose tout de suite une question, parce que vous voyez qu'elle les adresse à toutes ces filles et toutes ces sœurs de tous les monastères qu'elle a fondés, selon la règle primitive, donc c'est la réforme thérésienne. Hein. Et vous voyez qu'après, elle ajoute... Il est adressé spécialement à celle du monastère de Saint-Joseph, qui est le premier, hein, où elle était prieure quand elle l'a écrit. Donc, vous voyez que ce titre est venu après. Ce titre, elle l'a écrit après avoir écrit le livre. Le livre, elle l'a donc écrit dans le climat de Saint-Joseph d'Avila, pour les sœurs de Saint-Joseph d'Avila, hein, à des dates que nous allons voir. Hein. Et ensuite, elle a ajouté ce titre pour adresser le livre à l'ensemble des Carmels. Ça va? Ça peut aller? On fait un peu de critique textuelle, comme vous pouvez voir. Bien! C'est sérieux, hein, c'est un cours de maîtrise, je vous signale. Bon. Vous avez ensuite, selon les éditions, mais normalement les traductions le font, hein, on a une sorte d'avertissement, ou je ne sais pas comment c'est mis en français, là je n'ai plus mes affaires.
Protestation.
Protestation, voilà, protestation. Protestation, ça ne veut pas dire qu'elle s'est syndiquée et qu'elle va protester, faire une manifestation. Protestation, c'est protestation de foi catholique. D'accord, hein. Donc, elle affirme, hein, que... tout ce qu'elle écrit, elle le soumet au jugement de la Sainte Mère Église catholique, apostolique et romaine. C'est très nettement précisé. Ce n'était donc pas au début, elle n'a pas écrit comme ça au début. Cette protestation qui est ajoutée dans les traductions est venue ensuite, quand elle a préparé l'édition. et c'est dans une copie. Ce n'est pas dans l'autographe de Valladolid ni celui de l'Escorial. C'est dans une copie qu'elle a reprise pour préparer l'édition qui est sortie juste après sa mort. Et c'est ce qu'on appelle la copie ou le manuscrit de Tolède. Et dans ce manuscrit, en vue de cette édition imminente, elle a mis cette protestation. Car c'est 15 ans après la rédaction du texte, et c'est vrai qu'on est dans un contexte ecclésial assez tendu, beaucoup plus rigide en Espagne, où vraiment il faut que les auteurs, pour publier quelque chose, fassent ce type de profession de foi. Ça va ? Bon. Ça vous fait entrer un petit peu dans le problème du texte, dans son histoire, que vous allez essayer de comprendre, enfin vous verrez, vous ferez ce que vous pourrez. Donc nous avons ici une sorte d'épigraphe qu'elle a ajoutée après la rédaction, qui lui est postérieure. Nous avons les destinataires et nous avons l'objectif poursuivi, des avis et des conseils. Et nous voyons que cela concerne des monastères, elle en a fondé à la fin, quand ça va sortir, elle en a fondé 15. Donc voilà, 15 monastères de 12 à 15 religieuses. Après, ça s'agrandit. Donc vous voyez que les destinataires, le public est extrêmement réduit. C'est quelque chose, c'est un texte de famille. Et c'est vrai que le chemin de la perfection porte cette marque-là. C'est vraiment un texte de famille. Adressé à des gens qui partagent le même idéal, qui veulent le vivre. Ça va ? Bien. Il s'agit donc, vous le percevez, enfin vous allez le voir davantage, d'un texte de famille, pour la famille, un pain de famille, et qui va conserver tout au long de la rédaction un ton de dialogue. Elle interpelle ses sœurs. Mes filles, mes sœurs, elle est au milieu d'elles, donc il y a un côté très très familier dans ce texte. Et si vous voulez, c'est un peu une charte de vie qu'elle leur laisse. Bien. C'est donc un texte extrêmement travaillé par l'auteur. Alors je vous dis quelques mots de cette histoire, puis on va classer l'affaire. Une affaire un tout petit peu compliquée, il faut bien dire. Bon. Lorsque Sainte Thérèse écrit ce texte, à la demande de ses sœurs et aussi du père d'Agnès, donc son confesseur à l'époque, comme elle le dit, en 1566, probablement en début d'année, donc la fondation de Saint-Joseph remonte 4 ans auparavant, 24 août 1562, elle est venue s'établir dans ce monastère, y observer la clôture à sa demande, et elle est donc prieure de ses sœurs. Ça va ? Lorsque Thérèse écrit ce texte, elle l'écrit de manière très spontanée, très familière, elle l'écrit le soir, quand elle a un peu de temps. C'est un texte qu'elle ne revoit pas, qu'elle ne corrige pas, elle écrit comme ça. Et c'est un texte familier, spontané. Et lorsque ce texte est terminé, alors elle va le soumettre à un censeur théologien qui n'est pas son professeur, le père Bagnès, mais qui est un autre dominicain, le père García de Toledo. Qu'elle avait rencontré à Tolède pendant la fondation de Saint-Joseph d'Avila, et qui était aussi le destinataire du livre de la vie, il y en avait plusieurs, il faisait partie de ce groupe de censeurs et amis et disciples en même temps. Le père García de Toledo, recevant le livre, le trouve irrecevable. Le rature de partout, lui demande d'arracher, de faire des corrections. Il est un censeur très bienveillant, mais en même temps, c'est un théologien très pointilleux. Nous sommes 3 ans après la clôture du Concile de Trente. Les décrets du Concile de Trente sont arrivés en Espagne. Il faut les observer. Et donc, il y a un certain nombre de points sur lesquels, voilà, Alors, Sainte Thérèse, consciencieusement, docile et obéissante, reprend son texte. Donc, cette première version, c'est ce qu'on appelle le chemin de perfection de l'Escandola. Le texte en a été conservé à la bibliothèque royale du monastère royal de l'Escorial, où le pape s'est rendu cet été pour parler aux universitaires, voilà, à 60 km de Madrid, palais-monastère où le roi Philippe II a résidé. Dans cette bibliothèque royale a été conservé ce manuscrit. Ça va ? C'est autographe, c'est écrit de la main d'un saint, Pierre. Je vais vous en montrer, pour un texte que nous allons étudier, je vais vous montrer comment il a été raturé, rayé, etc. Et par les censeurs, et par la sainte, enfin voilà. Donc vous allez voir un petit peu, vous en rendre compte, pour un texte précis. Donc, elle a repris sa copie dans la même année, selon les meilleurs historiens de la sainte, le père Thomas Alvarez notamment. Et elle a repris sa copie, et quelques mois après, dans la foulée, si vous voulez, la même année, et donc elle redonne un texte, sans doute fin août, début septembre ou octobre 1566. Et ce texte, dont vous avez la photographie, est l'autographe de Valladolid. Pourquoi ? Parce qu'il est conservé au Carmel de Valladolid, tel quel, religieusement, par des religieuses. Et vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que le censeur, qui est le même, le père Garcia de Toledo, a encore trouvé à redire. Et vous allez pouvoir voir, bon, il y a des soulignements, il y a des ratures, qui sont certainement liées à la sainte, il y a des petites annotations du père Garcia de Toledo, d'autres censeurs aussi, parce qu'elle l'avait montré à d'autres, je vous le montrerai en photo, j'ai pris des photos de cela. Et ensuite, vous observerez quelques passages que nous étudierons d'ailleurs, très intéressants, chapitre 36-37, où le censeur n'était pas d'accord avec son point de vue, et il lui a dit... Voilà. Donc vous verrez, les ratures sont assez notables, parce que c'était au point qu'on ne puisse pas lire du tout. Donc le censeur a rayé, puis après il a fait des boucles pour qu'on puisse pas lire. Alors, c'est assez amusant de voir, voilà. Là, il y en a une, par exemple, comme ça. Je vous le montrerai en photo, puis je vous laisserai le lire. Alors, il s'agit donc d'un texte extrêmement travaillé, certainement l'un des plus travaillés de Sainte Thérèse, avec deux autographes. Après, évidemment, il se passe une chose que nous ne pouvons pas imaginer. C'est que, bon, il n'y a pas de photocopieuse, c'est clair. C'est un texte, donc, manuscrit, autographe, qui circule dans les Carmels. Et les Carmélites, eh bien, à cause de l'amour qu'elles portent à leur fondatrice, etc., copient, recopient, etc. C'est tout à fait connu comme système. Et quand on copie, ben, on fait des erreurs, même si on a beaucoup d'amour et de rigueur. Et alors, une copie arrive dans les mains de Thérèse. Alors, elle est un peu effarée de voir ce que c'est devenu. Alors, elle la retravaille. C'est cette copie de Tolède, qui va rester au Carmel de Tolède. Donc, c'est une copie. Ça veut dire que c'est écrit par une autre sœur. Et puis, elle fait les retouches. Mais elle fait tellement de retouches que, bon, c'est assez impressionnant. Et c'est cette copie-là qui va servir à la première édition, juste après la mort de Thérèse. Elle va être éditée à Évora, au Portugal, s'il vous plaît, par un ami évêque de Thérèse, Don Teutonio de Bragança, qui a fait en sorte que ce livre soit édité à Évora, au Portugal, en 1583, un an après la mort de Thérèse. Et c'est donc une édition préparée par elle. Mais, comme il y avait beaucoup de choses, comme elle était partie d'une copie, et puis elle était assez bienveillante, elle avait laissé passer des choses, etc., alors, les Carmélites, quand elles ont vu arriver ce texte publié, elles n'ont pas reconnu les textes originaux, enfin, de Valladolid, de l'Escorial, et donc, elles ont trouvé ça insupportable comme version, et donc, cette publication, ça a été un four commercial, ça ne servait à rien, et ce n'est qu'en 1588 que Fray Luis de León, un grand bibliste de l'université de Salamanque, Augustin, qui avait été dans les prisons de l'Inquisition, pour une traduction du Cantique des Cantiques en langue espagnole. Fray Luis de León a édité les œuvres complètes de Thérèse d'Avila en 1488, donc 6 ans après sa mort, et il est revenu, il a pris le texte de Valladolid. Mais dans le texte de Valladolid, il a inséré les quelques passages qui avaient été arrachés par la sainte elle-même et à cause des censeurs dans la première édition. Donc le texte de Valladolid, en général, porte quelques textes du texte de l'Escorial, et c'est le texte qui est devenu, si vous voulez, le texte officiel du chemin de la perfection. Dans tous les Carmels et dans le monde entier. C'est celui qu'on va traduire habituellement. Ça va ? Bon, on pourrait en dire plus, mais je crois que ce serait franchement très compliqué. Si vous lisez l'espagnol et si ça vous intéresse de regarder ça au millimètre près, vous avez, accompagnant cette photographie, tout un volume d'explications par Roberto Tomás Álvarez. Ce texte a été publié à la Polyglotte Vatican en 1965. Ça fait presque 50 ans. Ce même spécialiste, le père Tomás Álvarez, qui a publié ensuite tous les autographes de la ville, des fondations et du château intérieur. C'est vraiment le grand expert du texte thérésien. Donc vous avez toute l'étude minutieuse de toutes les différences, etc. Donc si vous faites une étude scientifique, il faut se référer à ça. Je n'ai pas osé le mettre dans la bibliographie parce que je pensais que ça serait un peu fastidieux pour vous. Enfin voilà. Donc c'est un texte à histoire que le chemin de la perfection, ça va ? Une histoire assez romanesque, assez mouvementée. Bien. Pourquoi cette histoire aussi ? C'est pas seulement une histoire de censeurs et d'écrivains et de destinataires. C'est aussi que le chemin de la perfection, comme il va traiter d'avis et de conseils de Thérèse de Jésus, et nous allons voir que c'est sur l'oraison principalement, touche un thème brûlant, et au sens strict à l'époque. C'était brûlant au point qu'on pouvait être brûlé. Voilà. Donc, oui. Alors, il y a dans le chemin de la perfection un certain nombre d'éléments, d'affirmations, d'incises, parfois le ton, qui ont un côté polémique. Le texte reflète une tension doctrinale, on peut dire. Le texte a un aspect apologétique. C'est l'apologie de l'oraison et d'un style de vie orienté, animé par la prière ou l'oraison mentale, prière personnelle, intérieure, silencieuse. Donc c'est à la fois une apologie de cette prière et du style de vie qui va avec. Dans un contexte ecclésial, dogmatique et pastoral très précis et assez rigide. C'est la période des clarifications dogmatiques, pastorales aussi, dans la vie religieuse aussi, qui suivent le Concile de Trente. Et donc, le texte le reflète très, très nettement, très très nettement, vous le verrez. Comment allons-nous procéder ? Donc ça, c'est un tout petit peu notre méthode. Je le dis très brièvement. Après, nous allons passer au sommaire et au prologue. Alors, je pense que ceux qui suivent les cours que je donne habituellement le savent, mais enfin, je le répète brièvement pour ceux qui s'initient. Nous avons comme objectif et comme méthode de recevoir le texte tel que nous le possédons. Ce sera donc le texte de référence de Valladolid. Dans son architecture, dans sa progressivité, dans sa présentation, dans sa cohérence. Alors, c'est ce qu'on peut appeler de manière un petit peu scientifique ou précieuse, l'aspect synchronique de notre étude, le texte tel qu'il est, tel qu'il se présente, tel qu'il est organisé. Bon. Ensuite, comme vous avez pu le percevoir avec les éléments que je vous ai donnés, nous aurons besoin de temps en temps, pour quelques textes, j'en abuserai pas, de l'histoire et de la genèse du texte lui-même, de ses avatars, lorsque ce sera éclairant. Ce sera donc l'aspect diachronique ou génétique, comme vous voulez. Bien. Pour éviter une lecture trop... pour savoir voir un petit peu les grandes intentions de la sainte. Donc de savoir ce qu'elle a voulu dire, pourquoi c'était ça dans son intention en premier. On fera une, deux ou trois fois. D'accord ? Bien. Ensuite, par rapport au message donné ou à la doctrine, comme vous voulez, vous remarquerez, et c'est très thérésien, hein, que le texte a une forte dimension christologique. Trinitaire aussi, mais surtout christologique. Donc c'est indiqué par l'anagramme du départ que je vous ai montré, Jésus, sauveur des hommes, en latin évidemment, tout le monde parlait latin à l'époque, enfin, il faisait ce qu'il pouvait, surtout Sainte Thérèse. Bien. Le texte a aussi l'œuvre a une grande dimension d'anthropologie théologique, on peut dire qu'elle est essentielle, et vous verrez à cause des corrections des censeurs, mais bon, de mes axes de réflexion théologique, mais les corrections des censeurs vont tout à fait dans ce sens. Elle a été corrigée selon les canons du Concile de Trente sur la doctrine de la grâce, du péché, de la justification. Vous verrez, c'est très net. En particulier lorsque ça concerne tout le vocabulaire de l'assurance par rapport au salut, la sécurité par rapport au salut, la crainte ou la non-crainte. Alors, elle a été corrigée de manière très pointilleuse, chatouilleuse, on peut dire, par les censeurs sur ce point-là. Il y a vraiment, dans le mot à mot, pour qu'elle soit complètement conforme au canon du Concile de Trente, décret sur la justification notamment. Ils ont été extrêmement stricts. Si elle employait un petit peu trop le mot sûr, sécurité, alors là, elle était immédiatement corrigée. Elle a dû immédiatement se corriger. Hein, parce que ces théologiens dominicains sont en lien dans la même famille spirituelle et aussi de théologiens à Salamanque, à Valladolid, qu'avec un certain nombre de théologiens espagnols qui ont participé à la première étape du Concile de Trente, 1545-1546. Bon, ceux qui suivent le cours sur la justification vont en entendre parler. Hein. Mais il y a un certain nombre de théologiens espagnols, dominicains, augustins, franciscains, et ensuite deux jésuites, compagnons d'Ignace, espagnols, Salmeron et Lainez, hein, qui sont les délégués du pape Paul III hein, au Concile. Et donc ce sont eux, c'est les théologiens espagnols, surtout et italiens, qui ont fait cette première étape du Concile de Trente. Les Anglais, les Français sont arrivés bien après, à la deuxième étape surtout et à la troisième. Alors ce qui fait que les milieux de théologiens de Castille, où Sainte Thérèse évolue, ce sont des milieux de théologiens qui ont participé à l'élaboration des décrets du Concile de Trente, des premiers. Alors évidemment, après, ils ont qu'un souci, c'est de les faire appliquer, quoi, vous voyez ? C'est ça. Et même, ils produisent des œuvres, des catéchismes et tout ça pour, dans cette ligne-là. Donc évidemment, elle est suivie de près à la trace hein, par ces théologiens-là, c'est très clair. Hein. Alors tout ce qui concerne l'intériorité spirituelle, évidemment, est examiné au peigne fin par les censeurs, selon les canons du Concile de Trente. Ça va ? Alors, c'est un aspect important qui va surgir, qui va apparaître dans notre étude. Et alors, dernier élément de méthodologie aussi, eh bien, nous adopterons ce principe donné par le Père Lethel hein, dans ses études au studium, dans son enseignement au studium que vous trouvez dans sa thèse. Nous adopterons une attitude de disciple à l'égard de Sainte Thérèse. Ça va ? Elle est sainte, elle est docteur de l'Église, donc nous serons plutôt disciples que critiques et que censeurs. Ça va ? Hein ? C'est ça notre point de vue. Hein ? Plutôt, oui, comme disciples, plutôt qu'au-dessus. Ça va ? Bon. Je pense que c'est un point de vue assez important hein, pour pouvoir percevoir la valeur, la profondeur de ce texte et mesurer qu'il s'agit d'un texte vraiment de théologie spirituelle, pas seulement un truc de dévotion. Ça va ? Bien, alors, point B de la première approche, nous allons lire une partie du sommaire et du prologue. Donc on a l'épigraphe, vous avez ce que j'ai appelé sommaire, c'est ce qui venait ensuite, donc on le laisse tomber. Et on va lire une partie, on va lire le prologue, on va s'offrir ça. Alors est-ce qu'on peut se dire qu'à chaque cours, il y a deux lecteurs? Et puis ils lisent pendant tout le cours, quand je demande. Ça peut faire ? On peut décider comme ça. Alors on va décider que c'est Loïc et que c'est Stanislas aujourd'hui, ça va? Et puis à chaque fois, vous offrez à ce supplice. Ouais?
Bon.
Alors, nous prenons le prologue, dont nous allons dégager un certain nombre d'éléments qui vont nous éclairer. Nous sommes à une époque où les prologues, que ce soit dans les œuvres du Moyen-Âge, les œuvres de la Renaissance, les prologues, dans les prologues, il y a tout. Il y a toutes les clés du livre. Alors, on va essayer de dégager cela.
Les sœurs de ce monastère de Saint-Joseph, sachant que le père présentait frère Dominique Bagnez de l'ordre du glorieux Saint-Dominique, actuellement mon confesseur, m'a autorisé à écrire sur l'oraison certaines choses que je lui semble capable de dire, du fait que j'ai fréquenté nombre de personnes spirituelles et saintes. Elles ont tant insisté pour que je leur en parle que je me suis déterminé à leur obéir. Le grand amour qu'elles me portent leur fera mieux accepter ce que je leur dirai imparfaitement, dans mon mauvais style, que certains livres très bien écrits par quelqu'un qui sait ce qu'il écrit. Je me fie à leurs prières. Elles obtiendront peut-être du Seigneur qu'il m'accorde de bien dire certaines choses qui conviennent aux façons et au genre de vie de cette maison. Si je n'y réussissais pas, le père présenté, qui sera le premier à voir cet écrit, le corrigera ou le brûlera.
Présenté, c'est un titre qui était donné aux religieux à l'époque, en particulier dans l'ordre de Saint-Dominique.
Je n'aurais rien perdu à obéir à ces servantes de Dieu. Elles verront ce dont je suis capable quand Sa Majesté ne m'aide point.
Sa Majesté est le titre donné très habituellement par Sainte Thérèse au Christ. Sa Majesté.
J'ai l'intention d'indiquer quelques remèdes contre de menues tentations du démon, si menues qu'il arrive qu'on n'en fasse point cas. D'autres choses aussi, si le Seigneur m'aide à les comprendre, et au fur et à mesure que je me les rappellerai, mais faute de savoir ce que je vais dire, je ne puis en énoncer l'ordonnance. Mieux vaut, je crois, n'en suivre aucun, tant il est peu dans l'ordre que j'écrive ceci. Plaise au Seigneur de prêter la main à tout ce que je fais afin que ce soit conforme à sa sainte volonté. Tel est toujours mon désir, malgré les défauts de mes œuvres et les miens. Je sais que je ne manque pas de l'amour et du désir nécessaire pour aider, autant que je le pourrai, les âmes de mes sœurs à beaucoup progresser au service du Seigneur. Cet amour, joint à l'âge et à l'expérience que j'ai acquise dans quelques monastères, pourra peut-être aider à mieux voir de menus détails dont les hommes doctent, pris par des occupations plus importantes, et du fait qu'ils sont des hommes forts, ne font pas grand cas. Ces détails semblent un rien, mais tout peut nuire aux faibles choses que nous sommes, nous les femmes. Le démon use de beaucoup de subtilité à l'égard des cloîtrés. Il voit qu'il a besoin de nouvelles armes pour leur nuire. Moi, misérable, j'ai mal su m'en défendre, j'ai été échaudé, je voudrais donc que ce que j'ai subi soit utile à mes sœurs. Je ne dirai rien que je n'ai vu ou expérimenté moi-même. On m'a récemment ordonné de faire certains récits de ma vie, où j'ai aussi parlé de quelques points d'oraison. Il se pourra que mon confesseur ne vous permette pas de le lire. C'est pourquoi j'écrirai ici certaines des choses que j'y ai dites, ainsi que d'autres qui me sembleront nécessaires. Plaise au Seigneur d'y prêter la main, comme je l'en ai supplié, et de tout composer pour sa plus grande gloire. Amen.
Voilà, donc on a une espèce d'homélie initiale. Recueillons quelques éléments qui nous permettront d'avancer dans la lecture du texte, quelques axes. Si l'on s'en tient en première ligne, le livre a pour simple objet quelque chose sur l'oraison. Des choses sur l'oraison. Cosas, algunas cosas de oración. Un peu plus loin, elle limite son propos à exposer quelques remèdes à des tentations de religieuses et aussi l'intention qui a présidé à l'établissement de cette maison de Saint-Joseph, ainsi que tout ce que le Seigneur lui ferait comprendre ce dont elle se souviendrait. Donc, quelques remèdes, quelque chose. Vous voyez, c'est algunos remedios pour des tentations de religieuses. Bon. Elle avoue qu'elle ne sait pas d'avance ce qu'elle va dire, qu'elle va procéder sans ordre. Ça, c'est tout à fait Sainte Thérèse. Donc, il faut s'y faire. Et de fait, il y a toute une partie du livre, entre les chapitres 19 à 29, où c'est vraiment un foutoir, hein, pour parler correctement. C'est vraiment très difficile à suivre. Et comme elle ne se relie pas et qu'elle n'en a pas le temps, donc elle prend, elle reprend, ça revient, ça repart, tout ça. Donc, il n'y a pas d'ordre. Ça, c'est vrai. Hein, c'est tout à fait juste. Bon. Elle prie le Seigneur d'y mettre la main pour que tout cela soit conforme à sa volonté. Donc c'est son désir. Elle reconnaît que ses œuvres sont toujours imparfaites, aussi imparfaites qu'elle. Bon. Donc on voit que, comment dire, le projet est extrêmement limité. Modeste, c'est très modeste. Très très modeste. Bon. Modestie du projet. Qu'est-ce qui la pousse? C'est l'amour de ses sœurs, le désir de les aider autant que possible à progresser dans le service du Seigneur. C'est donc la charité. Charité, voilà, de la fondatrice, de la réformatrice, de la mère, hein, de la sœur aussi. Elle répond à leurs demandes ainsi qu'à celles du confesseur. Donc c'est la charité fraternelle qui la mobilise. Mais aussi, comme elle l'a dit, l'espérance que l'expérience des années lui permettra de trouver les mots justes pour, alors c'est ça qui est assez amusant, des choses insignifiantes que les théologiens occupés à des choses plus importantes négligent. D'accord ? Des choses insignifiantes. Et pourtant, comme elle a dit, tout peut être nuisible à choses aussi faibles que nous, les femmes, car les ruses du démon sont nombreuses envers celles qui vivent en stricte clôture, et moi, misérable, j'ai mal sauvé. Alors, ce qui est assez amusant pour nous, au XXIe siècle, c'est de voir cette espèce d'humilité, qu'on pourrait peut-être dire un peu exagérée ou un peu fausse, on n'en sait rien. Enfin, il y a un propos très, très modeste, des petites choses, elle va dire des petits trucs sur l'oraison, des petits trucs, voilà, des tentations, des remèdes à des tentations. Et puis en fait, c'est des choses que des théologiens ne vont pas dire parce qu'ils ne s'occupent pas de ces bagatelles, de ces broutilles, de ces choses insignifiantes. Hein. Mais c'est très important pour les femmes parce qu'on est plus faible, donc on est tout à fait dans le complexe de féminin au XVIe siècle, dans l'Église d'Espagne, dans une culture voilà, bien déterminée, bien macho, etc. Ça, c'est vrai, il y a tout ça. Bon. Et il y a quand même la conviction qu'elle peut dire quelque chose. Et l'amour la pousse. Et vous allez voir qu'après, c'est pas tout à fait le même style. Vous allez voir au chapitre 4. Hein. Dans le texte qui a été complètement raturé par le censeur. On va le voir dans l'heure d'après. Donc, et moi, misérable. Donc, elle se présente aussi comme un auteur qui a vraiment, voilà, elle a une misérable vie, comme elle dit dans sa vie. Hein. Donc, misérable, j'ai mal su me défendre. Donc, voilà, il faut qu'on tire profit de mon expérience. Vous voyez ça, hein? Bon. C'est donc de son expérience personnelle, féminine, qu'elle tire sa compétence en matière d'oraison et de vie contemplative. Hein. Mais elle se sent autorisée à écrire parce qu'elle a vu aussi chez elle, mais aussi chez les autres. Ça veut dire qu'elle a une expérience, une sorte d'accompagnement, hein, chez des personnes spirituelles et saintes. Hein, ça va? Donc, ça, elle peut mener à bien son projet. À vrai dire, si ça ne marche pas, le père Bagnès pourra brûler l'écrit, le mettre au feu, ce n'est pas son problème. Hein. C'est, voilà, hein, voilà la façon dont elle part, elle est très dégagée. Hein. C'est pas. Mais on est frappé par ces premières pages, par la modestie du propos et du ton. Alors je ne vous dis pas, il y a un certain nombre d'études sur cette question-là et sur ce ton-là qui sont tout à fait intéressantes. Si un jour vous aviez envie de le faire, je vous passerai la bibliographie. Mais il y a eu récemment une étude à la fois de linguistique et de psychologie, hein, aux États-Unis par une dame qui s'appelle Alison Weber. Une étude tout à fait intéressante dans les années 90-91. Je ne vous l'ai pas mise dans la bibliographie, c'est en anglais seulement, on ne l'a pas ici. Moi je l'ai en photocopie, j'ai réussi à le trouver par internet il y a longtemps. Alors, cette américaine dit, et c'est pour vous dire un petit peu comment les choses sont perçues, c'est assez intéressant, hein, elle dit, au fond, comme Sainte Thérèse est dans une culture machiste, comme la femme dans l'Église n'a pas le droit à la parole, et qu'il y a l'avertissement de Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens que la femme se taise dans l'Assemblée, vous connaissez, mais le pape Paul VI, quand il la proclame docteur, il tient compte de ce fait, de cette affirmation de l'apôtre, hein, que la femme se taise dans l'Assemblée. Alors, donc, Alison Weber dit, au fond, comme elle veut parler de l'oraison, comme elle n'est pas théologienne, comme elle n'est pas du clergé, alors elle a ce biais d'une humilité, pas fausse, mais d'une humilité de propos, pour pouvoir faire passer le message de l'oraison mentale, de la prière mentale, la prière silencieuse, face à des théologiens qui sont a priori hostiles. Elle est femme, elle dit qu'elle a été pécheresse, et ensuite elle parle de l'oraison, un sujet brûlant à l'époque. Donc, ce prologue, il faut le lire, c'est complètement ironique. Hein? C'est pas qu'elle soit modeste, c'est pas que ce qu'elle a à dire ça vaille rien et tout ça, c'est pas du tout ça dans son esprit, c'est tout le contraire, ça vaut quelque chose, mais elle présente ça comme ça. Alors ça a fait couler des tonnes d'encre, cette étude à la fois bon, un peu psychologique et puis linguistique surtout, des années 90, là, 1990-91. Et bon, en cherchant les choses de près, il y a un aspect qui est tout à fait classique à l'époque en littérature qu'on appelle le sermo humilis, c'est-à-dire le fait de parler humblement. Ça a été étudié en littérature, c'est très typique de l'époque. Bon, un premier point. La deuxième chose, c'est vrai que Sainte Thérèse, elle est très nature, elle est très sincère. À la fin du livre de la vie, elle dit qu'elle parle très sincèrement. Donc ça paraît difficile d'imaginer qu'elle ait fait un truc tordu comme ça, quoi. Mais elle assume d'une certaine façon la situation un peu complexée de la femme de l'époque, ça c'est très clair. Mais vous allez voir qu'elle n'est pas si complexée que ça au fil du texte. Voilà, suite au prochain numéro après la pause, 5 minutes. Voilà. Vous avez donc 5 minutes, hein, c'est ça ?
10.
Vous êtes sûr? 10. Oui, c'est vrai, j'ai mordu de 5 minutes. J'avais 10 minutes? Bon, pas plus, hein? Et d'ailleurs, je commencerai même une minute avant avec les photos. Attaque! Oui.